interprète au langue des signes. Donc la déontologie de neutralité. Comme vous le voyez, ma collègue qui traduit, elle n'intervient pas. Elle n'intervient jamais pour donner son avis. Elle ne va pas transformer les paroles qui sont dites si jamais ça ne lui plaît pas. Simplement, elle traduit d'une langue à une autre ce qui est dit avec les intentions qui sont dites, avec les émotions qui transparaissent dans le discours, quelle que soit notre opinion ou notre avis derrière ça. Ensuite, on a la fidélité. Donc, elle traduit tout. Intégralement tout ce qui est dit. Elle ne fait pas le choix d'enlever ça parce que ça lui plaît pas, ou parce qu'elle a pas envie, ou parce qu'elle sait pas comment le traduire. Non, on traduit vraiment tout. Et en dernier, le plus important, je ne sais pas, mais qu'on cite souvent, c'est le secret professionnel. Donc ce qui est dit, ce qui est traduit dans une réunion, dans un rendez-vous, n'est jamais, au grand jamais, répété, un peu comme les médecins. Hein. C'est la même idée du secret professionnel. Et c'est ce qui fait qu'on peut intervenir dans tant de milieux. C'est que finalement, les entreprises, les clients qui font appel à nous ont confiance parce qu'ils savent que les informations qui sont transmises ne seront jamais révélées au grand public. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses.
Ça me semble parfait. Enfin, on voit assez bien ce qu'est cette structure et puis surtout le travail que vous faites en tant qu'interprète. Philippe, oui, vous vouliez ajouter quelque chose.
Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais c'est vrai que c'est très très important en fait. Heureusement qu'il y a des interprètes et que les interprètes sont arrivés pour nous donner de l'autonomie. Parce qu'en fait, ça nous permet, les interprètes sont neutres. Avant, on avait plutôt tendance à faire appel à de la famille ou à des gens qui traduisaient pour nous, mais qui ne nous laissaient pas forcément être autonomes, en fait, qui des fois nous aidaient, répondaient à notre place. Là, on a vraiment, enfin, ça nous permet vraiment d'avoir le même vécu que n'importe qui, avec des obstacles ou quoi, des erreurs. Enfin, je ne sais pas comment quoi rajouter là-dessus, mais voilà, ça nous donne vraiment de l'autonomie.
Philippe et Amélie, est-ce que vous voulez bien nous parler de cette chorale éphémère ? Il y a déjà eu 3 répétitions, je crois. Il y en a encore 3. Et la chorale donc se produira à la clôture du Festival Chandelle le 28 novembre, ici même au centre André Malraux. Vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe, qui participe, le choix des chansons, voilà.
Je commence. Ça se passe bien. Non, on est très content du coup de ce projet qui a été proposé par Chandelle et qui a fait qu'on se soit rencontrés. On a choisi des chansons, mais qui étaient sur un thème des langues. Alors, difficulté supplémentaire, parce que il y avait des chanteurs entendants, des chanteurs sourds, des chansigneurs, et il y avait aussi dans les chanteurs entendants des gens qui parlaient pas bien français. Ce qui est fantastique parce que ça les a tout de suite mis à l'aise. Finalement, ils se sont dit, comme ce que je vous disais tout à l'heure, ah tiens, ben moi non plus, je parle pas la langue comme finalement les chanteurs entendants. On s'est retrouvés, voilà. Donc il y a voilà. Et du coup, on a choisi plusieurs chansons. On s'est aperçu que on en avait peut-être choisi trop. On a été un peu ambitieux. On a un peu réduit la voilure. Et tu veux continuer, Philippe ?
Alors oui, tout à fait. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir été invitée sur ce projet. Et quand j'ai eu connaissance, justement, de ce projet, j'avais beaucoup de questions. J'avais beaucoup d'interrogations, je savais qu'on aurait un regard différent et justement c'est ça qui était riche. On a travaillé nous sur les textes qui nous ont été transmis, en fait sur les chansons, pour les adapter effectivement au niveau de la musique, enfin, parce que les entendants travaillent le rythme, travaillent la musique et nous on a bien sûr travaillé la langue des signes, l'adaptation et la traduction de ces chansons. Et ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'effectivement, ce travail sur la langue, avec le binôme d'interprètes, nous a permis, enfin, déjà sur le temps de la traduction des chansons, nous ont vraiment permis d'acquérir encore plus de langues et de, comment dire, d'acculturation à ces différentes langues. Par exemple, la langue sur le volcan. Sur la chanson Silbo, pardon, effectivement, était déjà en soi une véritable réflexion et une véritable découverte sur une culture particulière. Et je trouve que d'avoir gardé ce patrimoine et de l'avoir transmis dans nos deux langues, de l'avoir traduit pour le public sourd, pour lui aussi lui transmettre l'intégralité et le contenu de cette chanson, réfléchir à la forme qui serait transmise, ça s'est pas fait de façon, c'était pas inné. C'est vrai que cette proposition m'a vraiment permis de... un travail, enfin, on en a discuté beaucoup avec les interprètes pour adapter, pour les répétitions, de voir comment on fonctionnerait, de suivre les différentes phrases des chansons. Et c'est vrai qu'en langue des signes, on ne colle pas aux mots qui sont chantés. Il y a toute une modification, une adaptation, vraiment, du texte français d'origine. Donc c'est vrai qu'en langue des signes, on inverse souvent aussi le complément, le verbe et le sujet par rapport à la langue française. Donc il y a eu énormément de modifications sur les textes d'origine. Et puis il y a eu aussi un gros travail sur l'assimilation du rythme pour qu'on puisse être fluide des deux côtés. Et je trouve que c'était un véritable avantage de pouvoir travailler ensemble là-dessus. C'est vrai qu'au début, on se demandait si les sourds pouvaient vraiment participer, chanter de façon orale, et on a tout de suite mis le holà là-dessus, parce que notre place n'était pas de chanter. On peut parler, les sourds peuvent émettre des sons, mais alors pour le coup, je pense que ça aurait été moins gracieux. Donc voilà, c'était plus harmonieux qu'on soit chacun sur un canal différent et qu'on fluctue ensemble, chacun avec notre équipe. Et puis c'est vrai que les différentes personnes sourdes qui viennent, c'est vrai j'étais contente parce qu'on a eu, ça m'a fait plaisir ce partage entre chef d'orchestre, entre guillemets, et chef de chœur. Je sens qu'effectivement, avec on aura vraiment un travail riche aussi de préparation et d'improvisation, de compétences pour chaque chanteur et chaque... Enfin, c'est une technique et c'est la première fois et ça montre aussi, ça lance peut-être la voix sur... plus tard, différents projets, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'émue vraiment et je suis très contente de partager et de travailler ensemble avec toi et puis de voir qu'on peut tous effectivement être égaux. Il y a encore quelques chanteurs sourds qui sont présents là maintenant, mais voilà, ils peuvent en témoigner aussi, c'est quelque chose de très, très intéressant.
Et d'ailleurs, même pour moi, je suis venue assister à deux de vos répétitions et on a l'impression que vous dansez presque. Enfin, c'est le chant signe, c'est pas seulement des gestes de la main. Enfin, il y a tout le corps qui bouge aussi et c'est très stupéfiant. Enfin, ouais, c'est vachement riche, quoi. Brigitte, vous faites partie de la chorale.
Oui, oui, oui.
Vous êtes chantante.
Chantante.
Est-ce que vous faites partie d'une chorale habituellement et comment vous vivez donc cette expérience de partage?
Moi, je fais partie de deux chorales. Enfin, j'ai fait partie de deux chorales. Ça, c'était avant le confinement. Donc, ça s'est un petit peu dispersé tout ça. Et je connaissais Amélie déjà pour avoir fait un projet avec elle qui a aussi avorté aussi ce projet. Mais donc, j'ai découvert qu'il y avait d'autres projets sur les Hauts-de-Rouen, parmi lesquels Cœur de Cité. Et ça, c'est un autre projet. Et Émilie nous a parlé de ce projet avec des malentendants. Et j'avoue que sur le coup, je me suis dit comment ça se passera, quoi. C'était curieux, ça a incité ma curiosité, franchement. Et j'ai pas hésité à dire oui, moi je veux y aller parce que je voulais découvrir. Alors moi j'aime beaucoup chanter, mais j'aime beaucoup chanter avec des gens pour différentes raisons, parce que je chante pas très bien. Et puis je trouve que c'est entraînant, ça donne de l'énergie. Mais là, cette chorale-là, c'est encore autre chose au niveau de l'énergie, parce que là, ça dépasse tout. Je trouve que il y a une énergie qu'on ne développe pas dans une chorale normale. C'est difficile à expliquer, mais il se passe des choses entre les entendants et les malentendants. Et ça se ressent au niveau de la chanson. Quand on chante tout seul et que après Amélie nous demande de nous intégrer au malentendant, je pense que l'énergie se développe. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on est plus en osmose avec eux. Et moi, je suis émerveillée de ce qui se passe dans cette chorale parce que je suis très, très admiratrice et respectueuse du travail que les chefs de chœur, hein, le chœur, c'est pas rien ce mot-là, qui font que cette chorale est c'est une énorme réussite. Hein, je parle pas du concert, on sait pas ce que ça donnera, mais là, déjà, c'est un beau projet qui se réalise. Moi, je suis vraiment enchantée et je sais qu'en ayant parlé avec d'autres choriste entendant, je sais qu'on a été très très ému à plusieurs moments dans la séance, pour certains jusqu'aux larmes, quoi. Tellement il se passait des choses entre les uns et les autres. Mais c'est pas une zone de confort, cette chorale, quand on... parce que c'est très éprouvant physiquement, parce qu'on veut faire le mieux possible quand même, et chanter, nous faire les signes des malentendants, c'est pas facile.
Je crois que ça chamboule.
Oui, t'avais ouais. Envie de réagir.
Ça chamboule beaucoup parce que, en fait, quand on est entendant et chanteur, on se pose pas de questions, il y a un truc naturel, et là, on va chercher à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, nous occidentaux un peu coincés. Le travail du corps, enfin, toute l'expression, elle se fait beaucoup par ce qu'on raconte. Alors, on le voit des fois à la tronche qu'on a ou quoi, mais il y a tout ce travail-là du corps que propose Philippe dans les mots. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment, je trouve ça génial, parce que c'est vrai que comme les mots parlent d'eux-mêmes dans une chanson en général, on se pose pas toujours la question du sens. Quand on est comme ça chef de chœur, on explique des trucs un peu compliqués ou des mots qui viennent de l'étranger que les gens comprennent pas ou quoi. Mais le sens, on en parle hein, dans l'énergie qu'on veut faire passer toujours. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus fort dans le geste. Et quand Philippe expliquait, quand ils traduisent avec les interprètes, on va vraiment chercher le sens profond des mots pour que, quand on est sourd, tout de suite on comprenne. Je sais pas ce que tu en penses, Brigitte, mais dans la façon de raconter l'histoire de la chanson, il y a plein de choses qui changent grâce aux gestes. Enfin.
Mais là, en plus, le choix des chansons, là, je trouve qu'elles sont déjà les paroles sont c'est très imagé, ouais. Et ça rend le fait de faire les gestes sur ces chants-là, ça renforce l'image qu'on peut avoir de la chanson. C'est pas anodin, quoi.
Ça évoque des choses pour vous, Zoé, justement, le travail du corps. Vous êtes modèle d'art, vous êtes comédienne. Est-ce que ce que vous entendez, là, ça évoque des choses pour vous ?
Moi, de voir des gens signer, ça me bouleverse, déjà. Après, je comprends, enfin, je suis rentrée au moment où il y avait la répétition. J'étais aussi très émue par l'énergie qui est là. Dans le chant signe, c'est vraiment très palpable et beaucoup plus fort que dans une chorale dite normale. Après, moi, je suis dans un endroit un peu particulier, parce que je fais le parcours un peu douloureux de perdre l'audition sans savoir vraiment comment ça va se développer, etc. Du coup, je suis pas encore hyper à l'aise avec tous ces, c'est même pas des concepts en fait, mais tous ces étapes de voilà d'apprendre la langue des signes, de pouvoir assumer toutes ces histoires là. Mais voilà, c'est très émouvant. Moi, j'aime beaucoup votre chorale, je la trouve très belle.
Peut-être là-dessus, je voudrais justement rassurer Zoé, parce que c'est vrai qu'en France, on a une. C'est vrai que je suis. De votre profil, être sourd, c'est pas forcément évident sur le plan identitaire, mais enfin, n'importe quel Français, c'est vrai que la relation au corps de base n'est pas évidente. Quand on remarque plutôt dans le sud de l'Europe ou même dans des pays comme la Martinique ou quoi, il y a des relations avec le corps qui sont beaucoup plus évidentes dans d'autres contrées que dans les nôtres. Et souvent, l'émotion est liée à toutes ces choses-là, en fait. Alors, est-ce que c'est le soleil ? Non, c'est pas ça, en fait. C'est juste qu'ils ont bien compris que le corps est un outil de la communication et un outil... De la présentation des émotions, c'est vraiment un relationnel au corps qui montre que par le corps, on a besoin de communiquer et on utilise le corps pour ça. Et il y a plein de choses qu'on peut communiquer sans avoir vraiment d'acquis de la langue des signes. On peut se comprendre par des gestes et des. Et voilà, c'est la méthode d'expression et pas forcément juste la langue. Je sais que au Portugal, enfin j'ai visité différents pays, j'ai rencontré de nombreuses personnes et qui étaient plus ou moins à l'aise avec l'expression corporelle et qui n'étaient pas forcément sourds. C'est vrai que la langue des signes, la culture sourde a cet avantage et amène cette particularité dans la chorale. C'est vrai que comme on a un sens en moins, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait il est remplacé par un autre biais et on a cette relation au corps qui est beaucoup plus aisée. Et on travaille souvent là-dessus. En fait, je donne aussi des fois des cours de langue des signes. Et c'est vrai que les personnes qui apprennent la langue ne sont pas toujours à l'aise avec cette relation au corps. C'est quelque chose qu'on remarque. Mais en tout cas, je voudrais quand même remercier effectivement les interprètes aussi, parce qu'ils ont permis aussi de sensibiliser chaque participant et de faire que, déjà par le texte, par le travail sur le texte qu'on a pu faire, sur l'explication, comme on disait, des mots, du sens même profond des textes, parce que la langue des signes c'est quelque chose d'iconique, on parle sur des images tout à l'heure sur la chanson effectivement on parle de l'oiseau, de la du bel oiseau, enfin il y a des choses comme ça qui sont très visuelles et qui s'agrémentent un peu comme des dessins, un petit peu comme des images en fait de voilà qui illustrent le texte.
Amélie et Philippe, vous voulez bien nous chanter une chanson?
Allez.
Là comme ça, poum.
Ouais, là comme ça.
Toi, tu veux te mettre? Moi aussi, tu crois? Ben, je sais pas. Hein. Moi, j'allais rester là, mais. Oui. Vas-y. Tu veux que je me mette là? Ouais. C'est parti. Allez. Moi, je sais pas bien mon texte, alors.
Peut-être juste préciser qu'on est encore en étape de travail. Hein. Ce ne sera pas parfait tout de suite. Hein. Voilà, je tiens quand même à le préciser.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'orange, je suis née.
Pardon. Non.
C'est l'émotion.
Je me suis trompée.
On le refait?
Ouais. Et on refait. Ok.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Merci beaucoup, Amélie et Philippe.
Juste, je me permets, on va attendre que la caméra se place sur Julie.
En fait, elle m'aide aussi pour assimiler le rythme. En fait, comme un chef d'orchestre, elle fait les battements pour pouvoir bien suivre le rythme, les temps. Parce que même si je connais le texte, enfin le chansigne par cœur, pour être en symbiose, suivre la fluctuation de la voix, en fait, je suis obligée. C'est un travail effectivement qui est perfectible, mais c'est vrai qu'on fait ça, voilà, par plaisir d'être là ensemble avec son aide.
Zoé, vous l'avez dit à la fois dans le journal de vos oreilles et puis à l'instant, donc vous êtes malentendante et c'est relativement récent. J'imagine que ça a modifié votre façon de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez réadapté ? Est-ce que vous avez réussi à adapter votre travail ? Et si oui, qu'est-ce que ça modifie ?
Alors, ça n'a pas seulement changé mon travail, ça a changé toute ma vie. Tous les rapports avec les groupes, mais avec aussi, enfin, en fait, c'est le lien à l'autre qui est changé. Dans mon travail, je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est vraiment de dire en fait ce qui m'arrive et de surtout pas cacher comment je suis, qu'est-ce qui se passe. Et c'est difficile, même moi je le respecte pas tout le temps en fait, parce qu'il faut vraiment ne rien lâcher et dire à chaque fois qu'il y a une petite gêne que le lien n'est pas fluide, parce que j'entends pas, parce que la personne est trop loin, parce que là je porte pas mes appareils donc j'entends encore moins, parce que je les porte pas du tout le temps, que cette voix là j'entends pas, qu'il faut que je me place ici et pas là, enfin bon, bref, c'est tous les petits ajustements à faire dans mon travail. Maintenant, il y a des choses aussi qui me font des cadeaux. Par exemple, je ne travaille plus comme comédienne pour me mettre au service des projets des autres. J'ai décidé de vraiment être au service de mon travail. Mais ça, c'est génial. C'est aussi ce qui a permis. Vous me demandiez comment ma vie avait changé, comment ma condition a changé. Bah, c'est aussi parce que j'ai le fait de parler de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai pu publier un livre et le fait de publier un premier livre, ça change beaucoup de choses dans la vie d'une autrice. Par exemple, je peux faire une résidence à la Factory et il y a plein de résidences qui ne sont pas accessibles quand on n'a pas à publier un premier livre. Donc voilà, donc tout a changé en fait.
Mais vous avez publié aussi un recueil de poésie qui s'appelle Cœur battant, je crois.
Ah oui, alors ça c'est une auto-édition qui est toute récente, qui est un travail avec deux illustrateurs et dessinateurs, et qui est une édition qu'on a fait pour le marché de la poésie, édition limitée, lino gravé à la main, voilà.
Et on peut se le procurer, cet ouvrage ?
Alors oui, mais il faut m'écrire. Écrivez-moi.
Donc je crois que vous avez un site internet. Donc si on veut vous écrire, il y a votre adresse sur le site internet.
Absolument, c'est trouvable très facilement. Voilà. J'ai aussi une adresse mail, j'écris une adresse mail, journaldemesoreilles@gmail.com, pour les gens qui veulent m'écrire au sujet du livre. Voilà.
En tout cas, ceux qui ne l'ont pas lu encore, le journal de mes oreilles, ou qui n'ont pas écouté les podcasts, je vous invite vraiment à le faire. C'est très touchant et c'est très vivant. Et enfin, on touche du doigt ce par quoi vous passez, les évolutions. Là, par exemple, la question de la honte de dire ce qui vous arrive. On entend que vous avez bougé quand même par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à en parler, vous en avez fait un livre. Donc vraiment, je vous encourage à le lire ou à l'écouter. On peut écouter les podcasts sur Internet sans problème et c'est vraiment intéressant. Philippe.
Oui, je voudrais dire merci vraiment sur deux points, effectivement, par rapport... les sourds, autrefois, avaient souvent honte de ce qu'ils étaient, du regard des autres. Ils ne signaient pas dans la rue, en fait, ils se cachaient, parce qu'en plus, on les éduquait à parler. Donc, en fait, ils étaient toujours contraints. Ils n'étaient pas dans une expression libre. Ils ne se le permettaient pas. Et c'est vrai que les sourds essayaient d'oraliser, en fait, et pour les sourds, nés, enfin pour ceux qui sont nés sourds, c'était déjà très très difficile. Et je me dis que les personnes devenues sourdes avaient acquis une langue, ont un développement depuis leur jeunesse. Pour les sourds qui sont nés avec une surdité, la plupart du temps, en fait, il y a 80% de ces jeunes sourds qui sont en échec scolaire parce qu'il n'y a pas cette acquisition de la langue dès la naissance. Même s'il y a maintenant des techniques médicales bien plus évoluées, avec l'implant cochléaire ou quoi, il y a encore de nombreux échecs scolaires par manque d'acquisition de la langue des signes. Et c'est vrai que ce qui est pour moi important, c'est le mot respect et tolérance. Et effectivement, être sourd, être malentendant, il faut en fait penser juste tolérance des autres, tolérance des gens, et faire en sorte de faire les efforts nécessaires pour que tous on puisse communiquer, que ce soit par le mime, par l'expression orale, par la langue des signes, par l'écrit, par le dessin, par le visuel. Et c'est juste ça, en fait, qu'il faut privilégier.
Zoé, vous voulez bien nous lire un deuxième extrait du journal de mes oreilles ?
Oui. Alors, je vous lis la fin. Du coup, je vous ai lu le début et la fin. C'est l'épilogue. J'écris un compagnon de route. Cher Beethoven, cher Ludwig von Beethoven, je t'écris du 30 octobre 2020, premier jour du deuxième confinement. C'est une année un peu folle, il y a une épidémie ici dont je te passe les détails. En très très bref, nous restons au maximum chez nous, isolés, confinés, pour limiter la contagion de la maladie. Maladie. Je termine alors l'écriture d'un texte que j'ai commencé pendant le premier confinement. Cher Ludwig, tu as commencé en 1818 tes carnets de conversation car tu n'arrivais plus à communiquer avec tes proches et moi en 2020. C'est le journal de mes oreilles que j'écris car je n'arrive plus à communiquer avec moi-même. Cher Ludwig, tu étais un grand génie, tu as commencé à 12 ans à composer tes premières œuvres. Moi, c'est l'âge auquel je me suis inscrite à mon premier cours de théâtre. On te décrit comme un homme à la crinière indomptable, malheureux en amour, tu aimes vite et fort et tu fais peur aux femmes qui te trouvent fou. Tu es blagueur, extrême, multiple comme un kaléidoscope. À 27 ans, tu commences à perdre toi aussi des décibels dans tes oreilles. Pas de bol, tu en as vraiment besoin, aussi vraiment énormément besoin. La musique, c'est ta vie et tu es désespérée car elle décline sévère ton audition. Elle décline, mais ton mal principal, ce sont tes maux digestifs. Tes maux digestifs et tes oreilles et aussi d'autres faiblesses physiques et une grande peur de la phtisie dont ta mère est morte. Ludwig, je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer sur le plan médical. S'il y a aujourd'hui des médecins spécialisés dans la sphère des oreilles, je les trouve moi aussi complètement incompétents. Quand je leur parle de toi, ils me disent que tu avais une otospongiose. Comment le savent-ils d'ailleurs ? Moi, j'ai fait un scanner. Et toi ? Et quand je leur réponds « Ah bon, mais vous savez, il avait aussi très mal au ventre », ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le lien entre les différentes sphères et les différentes strates. Et que toi, tu étais déjà dans des sphères très très élevées pour écouter ta musique, ses vibrations, sans tes oreilles, sans avoir à tout entendre par leur biais. Tu écoutais avec ton âme, avec ton cœur, avec tous tes sens, et tu t'y préparais depuis petit à tout savoir de ta musique pour pouvoir l'écouter différemment plus tard et de plus en plus finement, follement, profondément. Moi, je n'ai pas de piano ici, je ne suis pas musicienne. J'ai fait du piano de mes 7 à mes 8 ans, c'est tout. Nous avions un piano à la maison. Une voyante avait dit à ma mère que mon frère était un futur pianiste prodige. Il a commencé très tôt, comme toi, vers 5 ans. Bon, elle s'était trompée, il est devenu journaliste. Mais nous avions beaucoup écouté du piano. Nous avions un CD qui compilait les plus grands morceaux de piano à la maison. Nous le passions, c'était un double CD. Le premier titre, c'était « La lettre à Élise ». Je crois même que la piste avait fini par se rayer. « La lettre à Élise » et la 5e symphonie, le fameux « tin-tin-tin-tin » gravé dedans moi. Gravé dedans moi, et moi je n'ai pas de piano, j'ai en revanche une trompette achetée sur un coup de tête qui fait de la déco ici, je ne m'y suis jamais mise. Pas d'instrument de musique, pas dont je joue donc. Mais moi, je compose avec mes mains des stylos. Je compose sur des pages, je les aime à carreaux lignés, petits ou grands carreaux. Je n'écris pas forcément exactement dessus. Je dépasse un peu, parfois je me sers aussi de crayons feutres ou pastels et les couleurs me plaisent. On m'a dit une fois que ce que j'avais dessiné et peint était très bruyant, et tu vois d'ailleurs, quand j'écris, j'écoute. Quand j'écris ou peins ou crée quoi que ce soit, j'écoute la musique que cela fait, Ludwig. J'écoute le cheval à l'intérieur de moi, l'animal qui galope. J'écoute mon cœur.